Les festivités s'ouvrirent avec chiquet et grand tremblement. Un énorme cortège sortit des quartiers de Bromel pour escorter le couple ducal vers le camp de Kimark. On se serait cru au spectacle ou à une foire aux chevaux, tant la noblesse s'était pomponnée et prenait plaisir à frimer sur des cavales hors de prix. Cesarino, paradant dans l'entourage de la duchesse, j'avais jugé bien séant de m'en tenir à plus de modestie, planqué au milieu de l'arrière-ban. Du coup, je ne vis pas grand-chose de la prise de bouche entre le duc et le comte, sinon des drapés passés de mode et des culs de canassons. La foule noble n'en parut pas moins étonnée. Dans l'équipe adverse, le seigneur de Vert faisait défaut. Cela surprit beaucoup la haute société bromaloise, car à la différence de Vaumacel, Méléagan de Bromel ne passait pas pour être homme à se défiler. Sur le moment, cette nouvelle me fit ricaner. J'aurais parié ma braguette que c'était un autre tour du duc, qui avait sans doute réussi à intercepter son fils en cours de route. Ce bon Ganelon n'y avait pas été de main morte sur la triche. C'en était presque trop visible. Du moins avais-je la certitude que l'affaire était pliée. Une fois les roquets de Lex renvoyés à la niche, l'offensive contre Louramagne suivrait son cours et nous quitterions ma chère amie Clarissima pour rejoindre l'amiral Faleri et ses galères. Quel couillon! Je me fourrais gravement le doigt dans l'œil. Du moins, j'ai la consolation de n'avoir pas été le seul à me planter sur toute la ligne. Pendant que les chefs de parti se passaient de la pommade, je pris un peu d'avance et quittai le cortège pour m'assurer une bonne place au château. Au milieu d'une volière féminine en grande toilette, je me dénichais un créneau pas trop inconfortable sur un coin de rempart, d'où je disposais d'une vue plongeante tant sur la cour que sur le pré où serait disputé le combat. Ce fut seulement du haut de ce perchoir que je pus découvrir, au cours du cérémonial de l'adoubement, les meneurs de la sédition. Le comte de Kimark, splendidement cuirassé, avait l'allure d'un vieux capitaine blanchi sous le harnois, rompu à toutes les ruses de guerre comme à tous les artifices de cour. Son fils, Claudas, avait endossé de fastueuses parures sur ses larges épaules et il avait le culot de faire du plat publiquement à Clarissima. Chacun à sa manière, les deux Kimark avaient de l'aplomb et de la prestance. Ils conversaient plaisamment avec le duc et la duchesse alors qu'il leur avait quasiment déclaré la guerre. Je compris au premier coup d'œil que nous avions affaire à de gros clients. Et j'en éprouvai un doute, hélas trop éphémère. Ces cadors-là ne ressemblaient pas à des perdreaux de l'année. Pouvaient-ils vraiment tomber dans le panneau qui leur était tendu? Le jeune Blancandin de Bromel volait cependant la vedette au Kimark, parmi les dames des tribunes. Il avait pour lui l'attrait de la nouveauté. Et puis, on lui prêtait du caractère, puisqu'il avait osé s'évader de la principauté du Sacre pour défier son père. En plus, à seule fin de défendre l'honneur de maman. Cela émouvait tous les cœurs sensibles, y compris ceux des Bromaloises, dont certaines rappelaient non sans nostalgie la classe de l'ancienne duchesse. Il faut aussi reconnaître que le damoiseau présentait bien. Mignon avec dignité dans son juste au corps sombre, puis absolument craquant aux yeux des belles et des moins belles, une fois sanglé dans son armure de joute. Moi, je ne voyais qu'un gamin. Il n'avait pas l'air bête. Il savait se tenir et tenir tête à son père. Mais quand même, ce n'était qu'un freluquet déguisé en prince de roman. Il avait saisi un prétexte pour se rebeller contre l'autorité paternelle. Il est vrai que la répudiation de sa mère lui fournissait un motif en or. Sans doute cherchait-il avant tout à fuir la carrière ecclésiastique qu'on lui avait imposée. Quand il se serait cassé le nez dans cette affaire, une fois l'humiliation digérée, peut-être en tirerait-il les leçons qui en feraient un intrigant plus prudent et plus retors. Sans doute à terme se révélerait-il aussi roublard que son père. Mais pour l'heure, il faisait encore ses dents. À sa façon, il me rappelait la jeune Clarissima Ducatore quand elle avait tenté de trahir le podestat. Je le plaignais presque, ce gosse de riche. La fessée serait cuisante. D'autant plus cuisante, en fait, que les deux bandes de chevaliers qui allaient s'asticoter n'étaient pas de force égale. La double défection du seigneur de Vert et du fils maginois n'avait laissé que 6 champions dans l'équipe du petit rebelle, tandis que Fitz Ganelon était soutenu par 8 combattants. En plus, deux des comparses de Blancandin travaillaient secrètement pour la cause ducale. Dans le tas, je fus assez étonné de reconnaître le Benêt qui m'avait bousculé la veille. Lorsque les héros d'armes crièrent son nom, Ivorin de Kéan, tout devint limpide à mes yeux. Du moins, voilà ce que je crus sur l'instant. Si l'imbécile avait traîné son air hagard dans le camp ducal, c'était sans doute parce qu'il sortait des bras de la Dulcinée qui venait de le retourner. À 7, dont 2 traîtres, contre 9, le tournoi semblait plié avant d'être joué. En plus, mes voisines s'extasiaient sur les preux qui défendaient l'honneur du duc, des cogneurs affublés de doux sobriquets comme Froisfer ou Nucred. J'ai reconnu d'ailleurs le très roide Bérard d'Estrif, et le grand bâtard lui-même n'était pas du genre à faire dans la dentelle. L'issue de l'affrontement paraissant écrite, tout au plus pouvait-on s'intéresser à la manière, c'est-à-dire aux finesses qui maquilleraient le trucage en honnête compétition. Cela expliquait peut-être la présence d'Ollier de L'Aulnay au milieu de l'équipe du dehors. Il fallait quand même un pantin ou deux dans la bande de Fitzganlon pour donner l'illusion que la partie serait disputée, et pas seulement une brutale correction. Alors que les deux troupes se rendaient sur le pré pour se ranger en bataille, je laissais mon attention flotter sur le paysage. Ces lisses colorées, les foules massées derrière les barrières. Une bizarrerie m'accrocha l'œil. Loin au sud, derrière l'étang qui séparait les positions de Bromel et de Kimark, des originaux avaient monté un petit campement isolé. Leur pavillon était aussi luxueux que ceux des deux cours. Il s'agissait donc de gentillâtres, mais qui faisaient bande à part. Peut-être venaient-ils de l'étranger. C'était singulier quand même. Leur bivouac n'avait rien de barbare. Il ne ressemblait pas davantage à une ambassade récinienne ou à un détachement de l'ordre du Sacre. Là-dessus, sonnait trompette. Nos vaillants paladins piquèrent des deux pour briser des lances et froisser de la tôle. Même en sachant que tout était pipé, je n'étais pas mécontent d'assister à cette explication de loin, bien tranquille sur mon mur, à l'abri des politesses qu'on allait se balancer en travers du bassinet. Dès le premier choc, deux des héros mordirent la poussière. De façon prévisible, l'un d'eux était le chevalier de l'eau du nez, prestement capturé, qui remplissait toute honte bue le contrat passé avec le chancelier. L'autre fut sans surprise ce brave seigneur de Vernejoul, qui fit une culbute artistique avant de brouter son picotin d'herbe fraîche. Un partout, l'ouverture des hostilités paraissait équilibrée. Il fallait reconnaître que la fourberie était joliment dissimulée. Ensuite, tout devint plus confus. Pendant un moment, l'affrontement fut un tournoiement illisible de combattants. Certains s'écartaient pour s'emparer d'un cheval ou d'un prisonnier. Cette cruche d'Ollier de L'Aulnay se refit culbuter au passage. Un gaillard assez traître tournait autour de la mêlée pour saisir des opportunités. Des cavaliers et parfois des destriers s'effondraient. Il y eut bientôt autant de monde à pied qu'en selle. Et tous ces gentils seigneurs continuaient à se marteler fougueusement la gamelle. Dans le tas, il y en avait un qui cachait bien son jeu. L'amoureux Ivorin, loin de paraître faiblir, défendait avec acharnement ses compagnons en difficulté. Sans la confidence de Cesarino, je n'aurais jamais pu soupçonner qu'il roulait pour nous. Probablement attendait-il un moment de bascule pour rendre les armes, sans avoir démérité aux yeux du public. De toute façon, le déséquilibre du rapport de force penchait irrésistiblement pour le camp ducal. Toute l'assistance crut que la rencontre allait s'achever quand Blancandin prit la fuite. Pourchassé par deux adversaires, il parvint néanmoins à se réfugier derrière les lisses. Mais le gamin n'était pas aussi pleutre qu'il y paraissait. Quelques instants plus tard, il revenait sur le pré, ayant changé de monture. Son nouveau destrier était un animal enragé, qui se jeta dans la mêlée avec furie et bouscula presque tout le monde. En quelques ruades, il avait rebattu toutes les cartes, jusqu'au moment où son maître lui-même vida les étriers et faillit se faire piétiner. Alors, inexorablement, la bande du grand bâtard reprit l'avantage. Bientôt, malgré un bref répit, il n'y eut plus qu'un chevalier du dedans qui tenait encore en selle face à deux adversaires montés, pendant que Blancandin et ses compagnons, sérieusement bousculés dans un pugilat à pied, se trouvait sur le point de flancher. L'affaire était dans le sac, et je ne devais pas être le seul à penser ainsi. Ce fut alors que le combat prit un tour inattendu. Cela commença par un incident assez bizarre. Un oiseau se mit à volter juste au-dessus de la bagarre, au risque de prendre un mauvais coup. Puis, soulevant une clameur de surprise dans toute l'assistance, deux nouveaux chevaliers entrèrent dans le bal. Ils surgirent du petit camp isolé au bord de l'étang et se ruèrent l'âme haute au milieu du combat. Les rugissements exprimaient le même étonnement chez les partisans de Kimark comme chez ceux de Bromel. Un nom fut également repris dans le public, que je ne compris que tardivement. « Le chevalier aux épines » criait-on. « Vaumacel ! Vaumacel sur la lys !» Les deux nouveaux venus tombèrent sur les champions du Caux et les sabrèrent comme à l'exercice. Une réserve. Ce vieux fourbe d'Anguzel avait dû prévoir une réserve. Il la faisait donner quand la bande du grand bâtard, certes proche de la victoire, était épuisée par l'engagement. Le résultat fut désastreux. Les deux combattants qui venaient de rejoindre le bal étaient de première force. En un tournement, Fitzganlon et ses compagnons furent surpris, débordés, renversés. Quant au prétendu cœur d'artichaut, il en oublia de tourner casaque et s'assura la capture du grand bâtard. Au moins, il n'avait pas perdu le nord, et assis sans vergogne sur le fils naturel du duc, il s'était assuré un joli pactole, à défaut des faveurs de sa belle. Quelques instants après la charge des nouveaux venus, la rencontre était finie. Comme souvent dans ce genre d'affaires, la fortune des armes avait viré en un claquement de doigts. La défaite du camp ducal était complète. Blancandin et ses compagnons hurlaient de joie. La foule franchissait les barrières et se ruait vers les champions dans un énorme mugissement où grondait la jubilation des uns et la colère des autres. Malgré ce tumulte, j'entendais aussi des éclats de voix au sommet de la tour, là où le comte, le couple ducal et leurs proches avaient assisté à la rencontre. Ganelon devait avoir du mal à avaler une défaite si inattendue. Allait-il contester le stratagème du camp adverse? Cela me paraissait probable, mais ne changerait rien au fond du problème. Le duc avait joué, il avait même triché, et il avait perdu. Il se retrouvait pris à son propre piège. Désormais, il n'avait plus qu'une option pour sauver la face et notre offensive, il lui faudrait consentir au tournoi, le vrai, celui qui allait engager deux armées. Je dois avouer que devant cette déconfiture, je me fis un sérieux mouron. On venait tous de verser dans une putain d'ornière. Et je savais bien que, dans le fond, c'était afin de gérer ce genre de bourbier que le patron m'avait dépêché dans cette ambassade. J'attendis un moment sur mon chemin de ronde. Cette fâcheuse défaite m'imposait de consulter mes collègues, surtout le neveu du patron, pour définir sur quel pied nous allions danser le prochain quadrille. Or, Cesarino et Dilettino avaient assisté au combat en compagnie de Clarissima, et je voyais d'ici la fureur qui devait étouffer la donzelle. Ce n'était pas le moment de me rappeler à son bon souvenir. Je préférais entreprendre les émissaires tchoudaliens en aparté, mais ils tardaient à se montrer. Sans doute étaient-ils retenus par la querelle qui opposait Ganelon et Anguzel à propos de la régularité de la rencontre. Tout en surveillant l'entrée de la tour, je pouvais contempler à loisir la foule grondeuse qui escortait les champions, vainqueurs et vaincus, vers le camp du dedans. Je pouvais surtout écouter à loisir les bavardages de mes voisines. Le dénouement de la bagarre, après les avoir laissées pantoises, les avait ensuite transformées en moulins à paroles. Pour les rombières, il était acquis que la grande mêlée de l'immortel aurait bien lieu le lendemain. Elles s'en épouvantaient avec beaucoup d'enthousiasme. La position délicate dans laquelle se retrouvaient le duc et sa nouvelle épouse leur inspirait une désapprobation pleine de jubilation. Elles comparaient également les mérites des champions, admiraient la chance et le courage de Blancandin, et louaient tout particulièrement chez les vainqueurs la vaillance du chevalier de Froek et celle de ce bachelier inconnu, Ivorin de Kéan. Mais le nom qui revenait le plus sur toutes les lèvres était celui du chevalier de Vaumacel. L'amant scandaleux était de retour. Il avait osé défier le duc. Il venait enfin défendre l'honneur de la duchesse Odéhard. À n'en pas douter, le tournoi du lendemain serait passionnant. Car si Vaumacel et le jeune Blancandin l'emportaient, comment le duc pourrait-il avoir encore l'outrecuidance de garder Dame Odéhard sous les verrous? Ce qui me sautait aux yeux, c'était que Ganelon ne pourrait pas revenir sur son jugement. Mais si les armes lui étaient à nouveau contraires, alors il se retrouverait dans une drôle de cacade. Ce n'était plus seulement l'offensive contre Lourmagne qui serait mise sur la sellette, mais son nouveau mariage, et à travers lui, la politique d'alliance avec Tchoudalia. Un revers pour le duc qui affaiblirait également le podestat. Il était évident qu'on ne pouvait plus rester les mains dans les poches devant ce sac de nœuds. Le patron ne nous l'aurait pas pardonné. Il fallait se retrousser les manches et fourbir ses outils. Quand les suzerains finirent par réapparaître dans la cour de Lindinas, cela sentait sérieusement le roussi. Le comte Anguzel et son fils se confondaient en civilité ironique, tandis que le duc, son épouse et ses officiers prenaient abruptement congé. La duchesse avait l'œil noir et le tic vindicatif. Ayant repéré Cesarino et Dilettino dans la suite ducale, je les rejoignis en catimini. Malgré mes détours, Clarissima m'aperçut comme elle venait de remonter en selle. Je craignis un éclat, qu'elle ne passe ses nerfs sur mon insignifiante personne. Mais son regard ne fit que me balayer avec le plus parfait dédain. À quelque chose, malheur est bon. J'étais désormais le cadet de ses soucis. Escortés par leur cour, le duc et la duchesse quittèrent le château et regagnèrent leur camp. Je mis le trajet à profit pour échanger quelques mots avec mes compatriotes. Cesarino en était arrivé aux mêmes conclusions que moi. La situation avait si mal tourné que nous ne pouvions plus demeurer en retrait. En revanche, les options qu'il envisageait n'étaient pas forcément celles que j'aurais prises. « Le duc conteste encore la régularité du combat », m'apprit-il. Mais les rois d'armes, tout en ayant constaté des manœuvres litigieuses dans les deux camps, estiment qu'elles se sont équilibrées. Ils disent qu'il est licite de conserver une réserve et que l'intervention de champions non déclarés reste admise par la coutume, puisqu'il est fréquent que soient tolérés les noms de fantaisie sur la lice. Je crains que Ganelon ait beau dire, la vie des héros l'emportera dans l'opinion de la noblesse. C'est sûr, difficile pour lui de reprendre sa parole. Tablons que le tournoi se tiendra demain. Cela mettra Clara dans une position délicate. Cette fois, Bromel doit l'emporter. C'est pourquoi j'ai décidé de me joindre au conroi ducal. Je ne pus m'empêcher de faire la grimace. Je comprenais bien le patrice. À ses yeux, il était crucial d'afficher son soutien à sa cousine. Mais pour ce faire, il s'exposait dangereusement. D'autant plus dangereusement qu'il formerait une cible de choix pour les partisans de l'épouse répudiée. Loin d'apporter l'ébauche d'une solution, il ajoutait un problème au problème. À sa façon, Dilettino paraissait partager mes réserves.
« Eh bien, vaillant Cesarino » railla-t-il. « Nul doute que le bon droit de notre bel ami l'emportera grâce à ton bras. »
« Au lieu de te moquer, sénateur, » repartit le neveu du podestat, « tu ferais bien de défendre ses couleurs et les intérêts de la République. Oh, mais les intérêts de la République nous imposent de conserver au moins un ambassadeur en un seul morceau, » répliqua l'autre. « De toute façon, j'ai autant de talent pour les armes que pour la sobriété, et je serai un vrai boulet sur le pré. » « Mais si tu veux, mon intrépide ami, je te prête Skedja. Ce gredin compensera largement mes défaillances. »«
Naturellement, Don Benvenuto vous en est également, » me lança Cesarino avec désinvolture. « Il est temps que vous montriez à nos hôtes de quel bois vous êtes fait. » »«
Difficile pour moi de me défiler, à partir du moment où le neveu de Leonide Ducatore descendait dans l'arène. » Mais je le retenais, ce blanc-bec, avec ses airs blasés de vieux ferrailleur. Fréquenter les salles d'armes et courir la bague, c'était une chose. Se jeter dans une véritable mêlée vous apprenait une toute autre chanson. Pendant la guerre civile, ce fils de bonne famille n'avait connu que quelques escarmouches de rue. La cavalcade qu'avait arrangée le comte Anguzel serait un autre tremblement. Pour le charmant garçon, le déniaisement allait être brutal.
On verrait bien le lendemain s'il resterait aussi crâne devant la charge d'un escadron.
Hors de question que j'enfourche un canasson, grognai-je. La guerre, je la fais pour prendre et pour tenir, pas pour tournicoter.
Ah ! Voici le phalangiste qui pointe le nez, sourit le Patrice. De toute façon, il risque d'y avoir plus d'infanterie que de cavalerie, et je ne serai pas mécontent de vous avoir en appui.
Je ne pourrai veiller sur vos fesses que si vous gardez la tête froide, votre seigneurie. Retenez ceci. Dans une bataille rangée, il y a deux types de combattants. Les héros et les survivants. Restez dans le rang. Vous ne servirez la cause de la famille Ducatore que si vous êtes toujours libre et en vie à la fin du bal.
C'est bien mon intention.
Alors ne perdez pas de vue les principes de son Excellence le Podestat. Il n'y a que la victoire qui compte. Tout le reste, prouesse, honneur, beaux gestes, c'est pour les poètes de cour et les cornichons. On se sépara lorsque l'on arriva au camp. Ganelon de Bromel et ses vassaux se rendirent tout droit au pavillon ducal pour tenir conseil sur la conduite à tenir. Les deux patriciens se joignirent aux délibérations, davantage pour faire acte de présence que pour apporter des propositions. Mais il fallait que le parti de Clarissima apparaisse soudé dans cette turbulence. En revanche, vu ma réputation et mes relations tortueuses avec la duchesse, il valait mieux que je n'y montre pas le museau. Sur la suggestion du Patrice, je me rendis donc dans nos quartiers pour y préparer notre fourniment. Avant notre embarquement dans l'escadre Falerie, le Patrice Cesarino Rasicari avait fait confectionner un grand harnois à la mode tchoudalienne. Une splendide armure articulée, d'acier sombre damasquiné, dont le plastron et le casque se trouvaient également ciselés de sénettes navales. Sur la suggestion de certains chevaliers de la cour ducale, le jeune aristocrate avait, par la suite, fait apporter quelques modifications à cette carapace de luxe. Il s'agissait de la rendre plus pratique pour la joute. La spalière gauche avait été agrandie afin de suppléer à la perte d'un bouclier. Et un crochet avait été soudé au côté droit de la cuirasse pour pouvoir y caler une lance d'arçon. Sur son écu, Cesarino avait fait peindre des armoiries de fantaisie. Une sirène dont les deux queues évoquaient vaguement la forme d'une ancre. Le trousseau qui nous était destiné, à Bonito Skeggia et moi, était plus simple et plus pratique pour un engagement à pied. Nous porterions la demi-armure du double solde, le soldat de premier rang dans la phalange. Cuirasse, brassard articulé et gantelet. Une barbute sur le chef, qui protégeait bien les joues et les oreilles, tout en dégageant un meilleur angle de vue que les hauts mais bassinets à visière. De simples bottes pour la marche. C'était plus pratique que des choses d'acier, et de toute façon, face à des cavaliers, les coups viendraient d'en haut. Restait à élire nos armes. Celle de Cesarino était toute trouvée. Plusieurs lances d'arçon, une forte épée longue d'un peu plus de 5 empans, et une dague d'estoc en dernier recours pour le corps à corps. De mon côté, j'étais plus contrarié. Un tournoi, c'est une guerre collée montée. On a le droit et le devoir de s'y écharper, mais avec des griffes rognées. Seules y étaient agréées les armes blanches. Un instrument aussi utile qu'une bonne arbalète à cric se trouvait complètement proscrit. Cela me chagrinait fort. Rien de tel qu'un vireton bien placé pour coucher à 200 pas un homme d'armes vindicatif. Par défaut, restaient les hastes. De mon passé de soldat, j'avais gardé une bonne pratique de la pique. Entre les mains de troupes disciplinées, cette arme formait des buissons de fer impénétrables aux cavaliers. Seulement pour cela, il fallait avoir l'habitude de manœuvrer comme un seul homme. Je ne doutais pas que les sergents qui combattraient pour le compte du duc seraient des vétérans endurcis, mais nous n'avions pas eu le loisir de nous accorder. On aurait sans doute du flottement. Or, quand le rang est rompu, rien de plus incommode qu'une arme trop longue. Par défaut, je me rabattis sur une demi-lance à peine plus haute que ma taille, plus maniable dans un combat irrégulier. J'optai rapidement pour une dague à lame diamantée et à gros pommeau, facile à pousser de la paume pour traverser une chemise de maille. Le plus compliqué restait le choix de l'épée. Il était exclu que j'utilise l'arme de duel dont j'avais pris l'habitude. Cette lame, redoutable dans une rixe ou une escarmouche, s'avérait inefficace contre de grands harnois et trop fragile en bataille rangée. Pour percer une armure, l'estoc était le plus recommandé.
mais son absence de tranchant rendait inoffensif les coups de taille, et sa relative longueur en faisait un instrument peu commode à manier dans une mêlée compacte. La lame plus courte et plus épaisse de la lance-quenette en faisait un fer plus adapté aux bousculades. Presque incassable, son pommeau lourd et ses solides quillons permettaient aussi de s'en servir comme d'un casse-tête. Mais sa pointe était moins efficace contre les armures. J'étais plongé dans ce dilemme, sous-pesant mes articles comme une cousette indécise chez le drapier, quand Bonito Skeggia vint me trouver.
« Tu as de la visite ?»
m'apprit le malandrin avec un sourire en coin. Il me désignait le seuil du pavillon. Son air amusé ne me disait rien qui vaille. Qui cherchait donc à me voir? La mine narquoise de Skeggia me fit d'emblée écarter l'hypothèse que ce pourrait être un des soudards du grand bâtard. Un joyeux drille de la compagnie folle serait-il venu me débusquer au beau milieu du camp ducal? Ces faquins en auraient été tout à fait capables. Je me rendis aussi sec à l'entrée de la tente pour éjecter le gêneur. En fait de gêneur, je tombai sur une toute jeune donzelle, plutôt gironde, et luxueusement attournée. Je n'avais aucun souvenir d'avoir déjà croisé ce joli petit lot.
« Ai-je l'honneur de m'adresser au seigneur Benvenuto Gesufal ?»
demanda-t-elle. « Ouais. » Pinçant délicatement le drap de sa robe entre le pouce et l'index, elle piqua une révérence on ne peut plus cérémonieuse.
« Charmé, sire Benvenuto !» reprit-elle avec un sourire bien élevé. « Je suis Oudé, demoiselle de compagnie de la baronne Erambourg de Brigor. Madame Erambourg m'envoie vous convier à prendre un rafraîchissement dans ses quartiers. Elle vous serait très obligée si vous aviez la courtoisie de lui accorder une brève entrevue. »
Cela empestait le cou tordu. D'abord, la petite messagère paraissait trop engageante pour être honnête. Ensuite, sans appartenir à l'hôtel de la duchesse, la baronne de Brigor faisait partie de l'entourage direct de Clarissima. Et pour cause, il s'agissait de l'une des deux rouées qui avait démoli la réputation de la précédente duchesse. Sa faveur dépendait donc de la nouvelle épouse de Ganelon. Connaissant ses secrètes accointances avec le patron, j'avais repéré la Brigor peu de temps après notre arrivée à Caruel. C'était une grande dame qui m'avait jusque-là magnifiquement snobé et ne se gênait pas pour manifester un certain dédain vis-à-vis de Dilettino. Seul Cesarino avait trouvé grâce à ses yeux. Elle lui octroyait d'ailleurs les marques d'une estime un peu galante. La bêcheuse avait l'âge d'être sa mère, mais il faut reconnaître qu'elle avait de beaux restes et qu'il y avait de quoi se laisser tenter. Très sagement, le neveu du podestat s'était contenté de coqueter sans chercher à pousser son avantage. Il avait deviné qu'il sortirait plumé des raies de l'intrigante. « Il doit y avoir erreur, » balançai-je à la suivante. « C'est l'ambassadeur Razikari que la baronne cherche à voir. » Le tendron me détrompa d'un gracieux mouvement de tête.
« Madame Erambourg sait fort bien que le seigneur Cesarino assiste au conseil ducal. C'est de vous qu'elle souhaiterait obtenir l'agrément d'une conversation. »
Je les voyais venir de loin, la Brigor et son accorte camérière. L'entourloupe était vraiment grosse. Cela fleurait une nouvelle plaisanterie de la duchesse. « Désolé, j'ai pas le temps !» aboyai-je. « Une autre fois, peut-être. » Je tournais déjà les talons, quand la petite Oudé ajouta précipitamment.
« Madame Erambourg sait que vous êtes un homme occupé, seigneur Benvenuto aussi. Avant que vous ne me donniez une réponse définitive, elle m'a chargé de vous remettre ceci. »
La donzelle venait de sortir de son corsage un petit objet brillant qu'elle me tendait du bout des doigts. Une pièce de monnaie. Je sentis la moutarde me monter au nez. Heureusement, je me ravisais avant d'envoyer paître la jouvencelle. Une intuition inquiétante venait de me traverser l'esprit. D'un geste brusque, je happai le pèse. C'était un beau florin de Tchoudalia, récemment frappé car il n'était pas encore rogné. Sans doute un de ceux que je m'étais échiné à convoyer à travers les mers et le duché. Et pourtant cette pièce neuve était abîmée. Côté face, elle était rayée de trois traits grossiers. La bouche et les yeux. Le signe de reconnaissance des chuchoteurs. Ravalant mes jurons,
je scrutais la demoiselle de compagnie. Elle continuait à sourire, en baissant poliment les yeux pour éviter toute inconvenance. Ce n'était qu'une coursière. J'aurais juré qu'elle ignorait tout de la signification de son message. C'est Dame Erambourg qui me donne la pièce.
Madame m'a recommandé de l'utiliser pour lever les embarras.
Était-il possible que la baronne appartienne à la guilde? Une femme? Une noble? Une bromaloise? J'avais du mal à avaler une idée aussi extravagante. Mais il m'était impossible de me dérober à la convocation. En plus d'être un signe de reconnaissance, les trois traits figuraient surtout une menace. Ils symbolisaient le châtiment qui frappait quiconque tentait de jouer au plus fin avec l'honorable société. Elle veut me voir maintenant?
Elle vous attend.
J'arrive. Le temps de saisir un manteau et je suivais la jolie messagère. Toute jeune, toute fraîche, avec des formes affriolantes, et pourtant j'avais la tête à mille lieues de la bagatelle. S'agissait-il d'un piège à miel? Mais dans ce cas, on ne m'aurait pas produit le signe secret des chuchoteurs. Il était plus probable qu'on m'adressait de nouvelles consignes à la suite de l'échec des manœuvres ducales. C'était quand même bizarre qu'elles me parviennent via l'honorable société et non par un émissaire direct du patron. Le podestat ne manquait pas d'agents. Utiliser des chuchoteurs pour faire passer ses directives coûtait les yeux de la tête et il n'était guère prudent d'associer trop étroitement le conseil muet à ses affaires en cours. La petite Oudée me mena rapidement jusqu'au quartier de Brégor. C'était un coin de campement que je connaissais bien, y ayant circulé plus d'une fois. Mais je n'avais pas fait le lien entre ce pavillon important, entouré par les tentes et les faisceaux d'armes d'une troupe assez nombreuse, et la grande dame sophistiquée qui se panadait dans l'entourage de la duchesse. Des sergents cuirassés contrôlaient les accès à la loge seigneuriale. Cet étalage de force ne me disait décidément rien qui vaille. Un simple signe adressé aux gens de guerre, la demoiselle de compagnie obtint droit de passage. Elle replia une des portières et m'invita à entrer d'un geste engageant. Je franchis le seuil à pas lents, en restant sur mes gardes. Seules deux personnes m'attendaient dans le demi-jour ouaté de la tente. Deux belles créatures, magnifiquement ajustées, dans une pièce douillette qui tenait davantage de la chambre des dames que du bivouac en plein champ. Des tapisseries représentant des scènes de chasse doublaient par endroits la toile du pavillon, et le pied foulait le moelleux de tapis étendu sur l'herbe. Une couche attirante, coiffée d'un ciel de lit, s'enchassait dans ce refuge velouteux où fumigeaient des poudres de senteurs. Entrer dans ce nid féminin, c'était comme se laisser glisser dans un bain chaud et parfumé. Cela ne fit qu'alimenter ma défiance.
Ah! Seigneur Djezoufal, vous êtes venu!
S'écria la plus fastueuse des deux dames.
Comme c'est aimable à vous de nous rendre visite!
Je reconnus aussitôt la baronne de Brégor. Bien que la pénombre, en adoucissant un peu ses traits, lui ait donné un air plus jeune que le personnage hautain que j'avais croisé à la cour, quoique la mode bromaloise ne me parle guère, il me fallait reconnaître qu'elle était magnifiquement parée, dans une toilette rehaussée d'or froid et d'hermine, dont le corset rembourré suggérait une taille de guêpe sous le plissé virtuose du surcot et de la robe. Je lui tirai mon chapeau en lui découvrant mes dents en or, histoire de lui signifier que nous étions du même monde.
« Oudée, offrez donc un siège à Sir Benvenuto. »
S'activait la grande dame.
« Et Louise, servez-nous une coupe d'Hippocrate. »
La petite demoiselle de compagnie m'installa un faux-desteuil pliant en face d'une bancelle où la baronne vint siéger. Comme elle s'asseyait, le frou-frou de ses jupes me caressa l'oreille avec un accent voluptueux.
« Je suis fort aise que vous ayez été si diligent à me répondre, »
se félicitait l'intrigante.
Quel dommage que nous n'ayons point eu le loisir de nous saluer à la cour, mais enfin voici l'occasion de mieux nous connaître.
Pendant qu'elle me servait son boniment, la dénommée Héloïse se penchait sur un coffre qui faisait office de table basse entre nous. Elle y remplit deux coupes d'argent avec un nectar à la robe tuilée. Élégamment vêtue, elle n'avait peut-être pas le lustre de la Brégore, mais une distinction de vieille race me frappa dans cette jeune figure, ainsi que la pureté du profil. Elle avait les joues un peu roses, comme si elle venait de courir, et les paupières baissées sur de beaux yeux où brillait je ne sais quelle joie secrète. La baronne se rendit compte que sa dame de compagnie avait attiré mon attention, et cela n'eut pas l'air de lui plaire. «
Dépêchez-vous, ma fille !»
lui intima-t-elle avec une pointe d'agacement. « Je vous trouve bien rêveuse depuis ces malheureuses commençailles. Un si petit accident ne change rien à nos projets. » Ayant déposé son aiguière, la trop jolie suivante se retira de quelques pas.
« Le seigneur Djezoufal et moi devons converser de sujets plutôt ennuyeux, »
poursuivit la baronne sur un ton un peu compassé.
« Je vous fais grâce d'un service fastidieux. Oudé, Héloïse, vous avez quartier libre. »
Et d'un geste, elle congédia les demoiselles. Elle suivit d'un œil froid la belle Héloïse comme elle se retirait.
« Ma nièce sait y faire, n'est-ce pas ?»
me confia la grande dame une fois que nous fûmes seuls.
« Voici qu'elle s'essaie à jouer de finesse avec moi et, j'en conviens, mes leçons ont donné du fruit. » Mais elle doit encore apprendre que dans ce genre de partie, il faut préparer plusieurs coups à l'avance. »
Je la laissai dire, attendant qu'elle entre dans le vif du sujet.
« La patience avec laquelle vous avez supporté mille et une petites disgrâces ces dernières semaines montre que vous êtes rompu à l'exercice, » poursuivit-elle en affectant la connivence. « Car on vous sait ombrageux, seigneur Benvenuto. » Mais vous avez su maîtriser votre ressentiment et dissimuler l'étendue de vos ressources. D'ailleurs, le seigneur Cesarino ne tarit pas d'éloges à votre sujet. Si vous avez seulement accompli la moitié des entreprises que l'on vous prête au service du podestat Ducatore, on ne peut qu'être impressionné par votre savoir-faire.
Pendant qu'elle me passait ainsi de la pommade, je saisis tranquillement ma coupe et la portai à mes lèvres. J'avais pris soin de laisser bien en évidence mon anneau de commensalité. La grande dame ne parut pas le remarquer.
« Je pourrais en dire autant à votre service, » lui répondis-je avec un sourire en coin. Ce n'était pas une mince affaire de confondre la duchesse Odéarde.
« Oh, vous me prêtez une influence que je ne possède pas. Dans cette triste histoire, je n'ai fait qu'apporter un modeste concours à l'établissement de la vérité. »
Une vérité que le jeune Blancandin a beaucoup de mal à entendre.
À qui le dites-vous? Voici une traverse fort contrariante pour leurs altesses ducales. Non que le blâme retombe entièrement sur le prince. Tout bien pesé, il n'a pas assisté au procès. L'amour filial est un noble sentiment et ce malheureux damoiseau est fort mal entouré. L'aveuglement de la jeunesse aura fait le reste. Une fois qu'on l'aura libéré de ses mauvaises influences, je ne doute pas qu'il fera amende honorable.
En somme, une remontrance est tout le mal que vous lui souhaitez.
Qui vous parle de mal? N'est-ce point un bien nécessaire?
Et c'est donc pour bien faire que vous m'avez convoqué.
Vous convoquez? Quel mot, seigneur Benvenuto? De quel droit me serais-je permis pareille impudence? Je suis juste fort aise que vous ayez accepté mon invitation.
Une invitation très pressante.
Hélas, la tournure qu'ont pris les événements nous contraint à abréger un peu les civilités. Vous conviendrez avec moi que le temps joue contre nous. Car ne sommes-nous point du même parti? Bien plus que l'argentier de l'ambassade de la République, vous êtes le glaive du podestat Ducatore. Et quoique je ne sois qu'une faible femme, je suis également feudataire de leurs altesses ducales. Aussi insolite que cela puisse paraître, nous appartenons à la même ligue. C'est pourquoi je suis un peu passé au-dessus des usages pour que nous délibérions de quelques expédients utiles.
Je me carrai posément dans mon siège.
Voilà pourquoi vous m'avez donné la pièce, insinuai-je d'un air entendu.
N'y voyez nulle intention désobligeante. Mais sans cette convention, vous seriez-vous montré aussi diligent?
Vous saviez donc ce que vous faisiez en me faisant parvenir cette monnaie.
Mon dessein est on ne peut plus clair.
Je n'en crois rien. La grande dame haussa un sourcil offusqué.
Voici un langage sans ménagement, seigneur Benvenuto.
C'est le cercle auquel vous prétendez être affilié qui agit sans ménagement, baronne. Car vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. Oh, je ne doute ni de votre rang ni de votre puissance, et je suis sûr que vous êtes plus dangereuse qu'un paquet de vassaux casqués et cuirassés de son Altesse ducale. Mais vous ne connaissez pas tous les signes qu'une daronne de la Zig retapisserait. Vous n'êtes qu'une intermédiaire, princesse. Dans un petit jeu qui fouette son traquenard à plein nez. En me levant, j'ajoutai avec une feinte politesse, « J'ai bien l'honneur, madame. Mais tant que j'ignore qui requiert mes services, je ne veux pas entendre un mot de plus. »
« Cette grossièreté ne fait pas mentir votre réputation, » répliqua la Brégor du tac au tac. « En revanche, où se cache le courage que l'on vous prête ?
Gardez ce baratin pour vos chevaliers bromalois. Il en faut plus pour me jardiner. »
« Je ne suis pas certaine de vous suivre, mais vraiment ne voulez-vous pas prêter l'oreille à mes propositions ?»«
Vous n'avez rien à me proposer. C'est la personne qui vous a appris le coup de la pièce qui cherche à m'engager. »
Quand bien même cela serait, qu'est-ce que cela change?
Vous avez la tête si combinarde que vous devez bien vous en douter.
L'indiscrétion peut se révéler plus dangereuse que l'action.
Voilà un principe commode pour les impostures. Ce fut une plaisante passe d'armes, mais j'ai un coup de torchon d'un autre genre à préparer pour demain. Serviteur, baronne. Sur un salut désinvolte, je prenais déjà congé quand s'éleva soudain une autre voix.
« Ce que tu peux me les briser, Benvenuto !»
s'écria-t-on en tchoudalien. La tenture qui voilait une alcôve secondaire de la tente fut tirée d'un coup sec et Clarissima fit son entrée.
« Voilà, tu es content ? »
m'apostropha-t-elle.
« Maintenant que tu as eu ce que tu voulais, reviens poser tes fesses sur ce siège. Il faut qu'on parle. »
Elle était toujours vêtue de l'extravagante robe virginale avec laquelle elle avait paradé pendant la cérémonie d'adoubement et le tournoi. Cette parure peu discrète m'apprenait qu'elle s'était rendue au plus vite dans le campement de la dame de Brégor après la défaite du grand bâtard. Elle se laissa tomber sur la bancelle sans aucune distinction, à côté de la baronne qui, les lèvres pincées, jugea plus convenable de se lever.
« Assieds-toi donc !» insistait la duchessina.
« Tu ne vas pas te faire prier quand même !»
Le rythme assez vif avec lequel son tic lui secouait la joue trahissait son exaspération. Je revins m'installer en vis-à-vis sans lui dissimuler mes réticences. J'avais bien sûr deviné qu'elle était derrière cet impromptu, mais j'étais quand même surpris de me retrouver en face à face, quasiment sans témoin. « Quel honneur vous me faites, votre Altesse » raillais-je.
« L'erreur est humaine, que veux-tu ? »
Ce sont des excuses pour toutes les tracasseries dont vous avez égayé mon séjour.
Des excuses? Pour qui tu te prends, petite truande merde?
Tu devrais me remercier à genoux d'avoir eu la main si légère. Malgré ses oripeaux ducaux et sa suivante de haut parage, je retrouvais bien là la conversation stylée de Clarissima Ducatore. Elle n'avait pas tort, du reste. Compte tenu de son tempérament, elle s'était montrée assez mesurée dans ses persécutions. Elle avait déjà fait nettement plus violent 2 ans plus tôt, en me dépêchant un tueur. Toutefois, si son séide avait été un spadassin redoutable, il n'appartenait pas au chuchoteur. Pouvais-je réellement croire qu'elle était à présent de mèche avec la guilde? Vous avez retenu vos coups parce que vous avez une meilleure idée de ce que je suis.
J'ai toujours su que tu étais une raclure, Benvenuto. Tu es juste moins drôle qu'avant, parce que tu es devenu une raclure parvenue. Mais on s'en fout un peu de tout ça, non? Depuis tout à l'heure, on a d'autres chats à fouetter. Je suis dedans jusqu'au cou à cause des bévues de mon seigneur et maître, ce qui risque fort de contrarier mon cher père.
ce qui veut dire que tu patauges avec moi. »
C'était assez bien résumé la situation.
« Et c'est donc pour cela que vous m'avez envoyé la pièce. Sans cela, tu nous aurais envoyé promener. »
Peu de gens connaissent la signification.
La petite duchesse me coula un sourire narquois.
Le jour où la guilde t'infligera les trois traits, je prie la divine tétrarchie de pouvoir assister à la séance de couture.
Clarissima était donc parfaitement au courant de nos usages.
Et je dois avouer que cela me fit un peu froid dans le dos.
Elle s'en rendit compte et parut en tirer satisfaction. Se penchant un peu en avant, elle ajouta sur le ton de la confidence «
Je ne suis plus en très bon terme avec lui, mais je reste la fille de Léonide Ducatoré. La veille de mon mariage, mon cher papa a jugé sage de me donner quelques conseils sur la vie conjugale. Il m'a ainsi donné toutes les clés dont une bonne ménagère peut avoir l'usage. »
Se redressant pour adopter une pose pleine de majesté, elle enchaîna sur un ton bienséant «
C'est toujours une joie de retrouver de bons et loyaux serviteurs, Don Benvenuto. Si nous en revenions aux soucis qui nous valent cette conversation. Je suis certaine qu'en vertu même de vos traits détestables, vous saurez répondre à mes exigences.
Mes petits talents coûtent cher. Son Altesse Ducale vous a-t-elle laissé les moyens de vous payer un caprice pareil?
Je ne te verserai pas un liard, Benvenuto. Tu es la créature de mon père. Il t'a envoyé précisément au cas où. C'est lui qui régale. »
Je me gardais bien de lui confirmer que le podestat m'avait tenu un semblable langage. Clarissima avait besoin de moi. C'était l'opportunité de lui soutirer quelque chose. « Puisque son Excellence, votre père, vous a si bien mis au parfum, vous devez savoir que la guilde n'apprécie guère que les donneurs d'ordre se défaussent de leurs dettes les uns sur les autres.
Mon père paiera. Il a tout intérêt à ce que je reste duchesse de Bromel, et ce sera sa manière véreuse de me cajoler pour que je me réconcilie avec lui. C'est aussi pour cela qu'il t'a envoyé, non? Pour que tu serves de bouc émissaire et que je lui en veuille un peu moins. » «
Justement, votre Altesse Ducale. Vu la façon dont vous m'avez traité, il est possible que je ne sois pas très disposé à vous rendre service. » «
Quoi? Pour quelques blagues sans méchanceté? Tu as perdu ton sens de l'humour, Benvenuto.
Disons que je pourrais le retrouver si j'avais l'assurance qu'il s'exercera désormais sur une autre pomme que la mienne. »
Le minois de Clarissima se teinta de dérision.
« Je te ferais une promesse pareille? Franchement, tu y croirais ?»
L'expression redevenue tranchante, elle enchaîna. « Je vais t'en donner des raisons d'accéder à ma requête. Au moins deux, et des solides. Si on ne fait rien, la troupe ducale pourrait perdre demain comme elle a perdu aujourd'hui. Là, je serais vraiment dans la merde. Ganelon a déjà répudié une épouse, avec tous ses vassaux sur les bras, qu'est-ce qui l'empêchera d'en chasser une seconde? Mais moi, je ne me laisserai pas embéguiner chez des nonnes. Si on me jette, je rentre à Tchoudalia avec mon fils. Or, une fois à la maison, tu m'auras tout le temps sur le dos, voilà ma première raison. Et mon père aussi m'aura tout le temps sur le dos, après avoir claqué plus de 600 000 florins dans cette affaire foireuse. Il aura du mal à l'avaler, cette couleuvre-là. Ce qui m'amène à ma deuxième raison. Il risque fort de se demander à quoi ça sert de te payer si cher. »
Pas de doute, c'était bien une Ducatoré.
Sans y mettre les formes avec lesquelles le podestat aurait enrobé le propos, elle allait à l'essentiel et appuyait là où ça faisait mal.
« Bon, concédai-je, admettons que nos intérêts soient liés. Qu'est-ce que vous attendriez de moi ?
Ce que tu sais faire de mieux ? Un peu de ménage ? »
Je lui adressai une moue ennuyée. On se mettait à parler de choses sérieuses, or tout cela se faisait sans les précautions les plus élémentaires. D'abord, je n'avais aucune confiance dans la baronne de Brégor. Avec ses titres, sa naissance, ses gens de guerre et ses manières raffinées, la grande dame n'était pas moins une donneuse. Elle avait balancé l'ancienne duchesse dans une cour de justice. Elle pourrait balancer la nouvelle dans un autre procès. Et puis l'endroit lui-même n'était pas sûr. Même doublé de canevas et orné de tapisseries, une toile de tente restait une garantie insuffisante contre les oreilles indiscrètes.
« On ferait peut-être bien de baisser le ton, » suggérai-je, et de causer des détails entre quatre yeux.
« Va chier, Benvenuto. je ne resterai pas seule avec toi. »
Elle m'avait craché ces mots à la figure dans un accès de haine qui avait fugitivement trahi sa peur. Le tic fit sursauter son visage de façon incontrôlée pendant quelques instants. En d'autres circonstances, j'aurais tiré avantage de cette faiblesse. Mais il y a des ouvertures qu'il vaut mieux ne pas saisir quand la riposte risque d'être meurtrière. Du moins, cette faille me permit-elle de vérifier ce que je soupçonnais. Rien n'était soldé entre nous. Et même le service qu'elle me réclamait ne suffirait pas à éteindre sa rancune. Elle me recrutait parce que je pouvais faire un lampiste bien pratique. En fait, elle me recrutait parce qu'elle désirait que je fasse un lampiste bien pratique. Si l'occasion se présentait, elle méditait de faire d'une pierre deux coups. En exécutant sa commande, j'avais intérêt à surveiller mes arrières. Affectant un air blasé, je haussai les épaules. « Comme il vous plaira, c'est vous la patronne. »«
Alors ça y est? Tu as fini de faire ta mauvaise tête? » ?»«
Allons-y pour la purge. Tâchez juste de vous rappeler que des fois le remède est pire que le mal. »«
Tu me prends vraiment pour une bécasse? Bien sûr que pour l'instant on ne touche pas au qui marque, ni à ce petit comte Blancandin. Je ne suis pas folle. Je ne vais pas rajouter du désordre au désordre.
Ravi de l'apprendre.
Mais tu vas quand même écarter un gêneur. »
« Vraiment, quelle surprise !»«
Tu dois deviner de qui il s'agit. »«
Oh, les devinettes, ce n'est vraiment pas mon fort. »« Quand on sert une carpe alors que le client voulait du lapin, on essuie des réclamations à n'en plus finir. »
La duchesse leva les yeux au ciel tout en tripotant nerveusement un collier. « Je ne comprends pas pourquoi mon père t'apprécie tellement, » maugréa-t-elle. « À quoi ça sert un larbin qui ne prévient pas le moindre de vos désirs ?»
À éviter de commettre des bourdes.
« Question bourde, tu peux parler !» ricana-t-elle.
Puis, ayant poussé un soupir contrarié, elle se décida à en dire plus.
« Bon, d'accord. Voilà tes instructions. Tu vas t'occuper du chevalier de Vaumacel. »
Au moins sur le plan politique, le caprice était raisonnable. Clarissima préférait dessouder un symbole plutôt qu'une huile. N'empêche que, malgré tout, ce n'était pas de la tarte. Je venais de le voir à l'œuvre, le chevalier, et il m'avait l'air d'être un gros morceau. Le genre de chaland qu'il valait mieux prendre par surprise. Parce qu'à la loyale, il avait assez de nerfs pour lessiver la lavandière.
Quand est-ce que vous voulez qu'il soit indisposé?
Avant ou pendant le tournoi?
Pendant le tournoi.
Un mauvais coup au milieu des combats. L'accident bête, quoi.
Quand même. C'est le type d'accident que tout le monde va comprendre.
Justement, ça me convient à merveille. Un malheureux concours de circonstances parfaitement limpide.
Et vous êtes sûr d'avoir besoin de moi pour ça? Demain, la moitié de la gentilhommerie broimaloise voudra lui tomber dessus au chevalier servant.
La ducale Donzel fit la lippe. Tous ces fiers à bras font trop de manières. Ils lui casseront la gueule, c'est possible, mais ils ne régleront pas le problème. Ils s'arrangeront pour capturer le trouble fait. Au lieu d'abréger nos emmerdes, ça ne fera que les entretenir.
C'est que j'ai cru comprendre que Son Altesse, votre époux, aimerait traduire le félon en justice. Vous ne craignez pas le différend conjugal?
Ça, ce sont mes oignons, pas les tiens. Et puis, une scène de ménage, ça se règle sur l'oreiller. Tandis qu'un procès, ça se tient en public. Entre deux mots, il faut choisir le moindre.
Même si le langage de sa suzeraine la faisait un peu tiquer, la baronne de Brégor approuvait la teneur du propos.
« Dan de Vaumacel est un grand fourbe, seigneur Benvenuto, » crut-elle bon de développer. « Sous le masque de l'homme d'honneur, il est habile à tromper son monde. Il serait mal avisé de lui offrir une tribune, y compris lors d'un procès. Soyez certain qu'il sèmerait la confusion dans les esprits et que, fût-il condamné, il parviendrait à entretenir la sédition.
Quand j'ai eu l'honneur d'assister au conseil du duc, j'ai entendu le connétable de Traval jurer qu'il n'en ferait qu'une bouchée.
Le seigneur Anaro est un jouteur de première force,
convint la Brégor.
Mais il n'est plus de la première jeunesse. J'ai moi-même envoyé un jeune preux prometteur demander raison au chevalier de Vaumacel. Mon champion a mordu la poussière. Une ordalie présente moins de sûreté que le discret coup de pouce qu'on vous demande.
je leur servis un sourire sardonique. « En somme, gente dame, votre cœur penche davantage pour le spadassin mal élevé que pour la fine fleur de la noblesse. En amour comme à la guerre, tous les coups sont permis, » rétorqua la belle Erambour avec une galanterie calculée.
« Ne te monte pas trop le bourrichon, Benvenuto, »
me refroidit la Duquesina.
« On fait avec les outils qu'on a sous la main. On ne va pas se raconter d'histoire, toi et moi. C'est faute de mieux que je fais appel à tes services. Dis-toi juste que si tu nous ôtes cette épine du pied, demain, mon glorieux époux accroîtra ses chances d'étouffer la contestation une fois pour toutes. En sorte que quand tu seras rentré à Tchoudalia, mon cher père te prodiguera toutes les caresses que tu ne recevras pas de moi. »